Émile Zola, Nouveaux contes à Ninon. 9e nouvelle. Lily. Chapitre 1. Tu arrives des champs, Ninon, des vrais champs, aux senteurs âpres, aux horizons larges. Tu n'es pas assez sotte pour aller t'enfermer dans un casino au bord de quelque plage mondaine. Tu vas où ne va pas la foule, dans un trou de feuillage en pleine Bourgogne. Ta retraite est une maison blanche, cachée comme un nid au milieu des arbres. C'est là que tu vis tes printemps, dans la santé de l'air libre. Aussi, quand tu me reviens pour quelques jours, tes bonnes amies sont-elles étonnées de tes joues aussi fraîches que tes aubépines, de tes lèvres aussi rouges que les églantiers. Mais ta bouche est toute sucrée. Et je jurerais qu'hier encore tu mangeais des cerises. C'est que tu n'es pas une petite maîtresse qui craint les guêpes et les ronces. Tu marches bravement au grand soleil, sachant bien que le hâle de ton cou a des transparences d'ambre fin. Et tu cours les champs en robe de toile, sous ton large chapeau, comme une paysanne amie de la terre. Tu coupes les fruits avec tes petits ciseaux de brodeuse, faisant une maigre besogne, il est vrai. Mais travaillant de tout ton cœur en rentrant au logis, fier de tes égratignures roses que les chardons ont laissées sur tes mains blanches. Que feras-tu en décembre prochain? Rien. Tu t'ennuieras, n'est-ce pas? Tu n'es pas mondaine. Te souviens-tu de ce bal où je l'ai conduite un soir? Tu avais les épaules nues, tu grelottais dans la voiture. Il faisait une chaleur étouffante à ce bal, sous la lumière crue des lustres. Tu es resté au fond de ton fauteuil, bien sage, étouffant de légers bâillements derrière ton éventail. Ah, quel ennui! Et lorsque nous sommes rentrés, tu as murmuré en me montrant ton bouquet fané. Regarde ces pauvres fleurs. Je mourrais comme elles si je vivais dans cet air chaud. Mon cher printemps, où êtes-vous? Nous n'irons plus au bal, Ninon. Nous resterons chez nous, au coin de notre cheminée. Nous nous aimerons. Et quand nous serons lasses, nous nous aimerons encore. Je me rappelle ton cri de l'autre jour. Vraiment, une femme est bien oisive. J'ai songé jusqu'au soir à cet aveu. L'homme a pris tout le travail et vous a laissé la rêverie dangereuse. La faute est au bout des longues songeries. À quoi penser quand on brode toute la journée? On bâtit des châteaux où l'on s'endort comme la belle au bois dormant, dans l'attente des baisers du premier chevalier qui passera sur la route. « Mon père, m'as-tu dit souvent, était un brave homme qui m'a laissé grandir chez lui. Je n'ai point appris le mal à l'école de ces délicieuses poupées qui cachent, en pension, les lettres de leurs cousins dans leurs livres de messe. Jamais je n'ai confondu le bon Dieu avec croque-mitaine, et j'avoue que j'ai toujours plus redouté de faire du chagrin à mon père que d'aller cuire dans les marmites du diable. Il faut te dire encore que je salue naturellement, sans avoir étudié l'art des révérences. Mon maître à danser ne m'a pas exercé davantage à baisser les yeux, à sourire, à mentir du visage. Je suis d'une ignorance crasse sur le chapitre de ces grimaces de coquette qui constituent le plus clair d'une éducation de jeune fille bien née. J'ai poussé librement, comme une plante vigoureuse. C'est pourquoi j'étouffe dans l'air de Paris. Chapitre 2. Dernièrement, parmi une de ces rares belles après-midi d'été que le printemps nous ménage, je me trouvais assis aux Tuileries, dans l'ombre jaune des grands marronniers. Le jardin était presque vide. Quelques dames brodaient par petits groupes au pied des arbres. Des enfants jouaient, coupant de rires aigus le sourd murmure des rues voisines. Mes regards finirent par s'arrêter sur une petite fille de 6 ou 7 ans dont la jeune mère causait avec une amie à quelques pas de moi. C'était une enfant blonde, haute comme une botte, qui prenait déjà des airs de grande demoiselle. Elle portait une de ces délicieuses toilettes dont les Parisiennes seules savent attiffer leur bébé. Une jupe de soie rose bouffante, laissant voir les jambes couvertes de bas gris perles, un corsage décolleté de dentelle, un toquet à plumes blanches, des bijoux, un collier, un bracelet de corail. Elle ressemblait à Madame sa mère avec un peu de coquetterie en plus. Elle avait réussi à lui prendre son ombrelle et elle se promenait gravement, l'ombrelle ouverte, bien qu'il n'y eût pas sous les arbres le moindre filet de soleil. Elle s'étudiait à marcher légèrement, en glissant avec grâce, comme elle avait vu faire aux grandes personnes. Elle ne savait pas observer, elle répétait son rôle, en toute conscience. Essayait des mines, des moues gracieuses, apprenant des tours de tête, des regards, des sourires. Elle finit par rencontrer le tronc d'un vieux marronnier, devant lequel elle tira sérieusement une demi-douzaine de grandes révérences. C'était une petite femme. Je fus vraiment terrifiée de son aplomb et de sa science. Elle n'avait pas 7 ans, et elle savait déjà son métier d'enchanteresse. C'est à Paris seulement que l'on trouve des fillettes si précoces, connaissant la danse avant de connaître leurs lettres. Je me rappelle les enfants de province. Ils sont gauches et lourds, et ils se traînent bêtement par terre. Ce n'est pas Lily qui irait gâter sa belle toilette. Elle préfère ne pas jouer. Elle se tient bien droite dans ses jupes empesées, mettant sa joie à être regardée, à entendre dire autour d'elle « Ah, la charmante enfant !» Cependant, Lily saluait toujours le tronc du vieux marronnier. Brusquement, je la vis se redresser et se mettre sous les armes. L'ombrelle penchée, le sourire aux lèvres, l'air un peu fou. Je compris bientôt. Une autre petite fille, une brune en jupe verte, venait par la grande allée. C'était une amie et il s'agissait de s'aborder en toute élégance. Les deux bambines se touchèrent légèrement la main, firent les grimaces d'usage entre femmes du monde. Elles avaient ce sourire heureux qu'il est bon ton d'avoir en pareille circonstance. Quand elles eurent achevé leur politesse, elles se mirent à marcher côte à côte, causant d'une voix fluette. Il ne fut pas question du tout de jouer.
« Vous avez là une jolie robe. »«
C'est de la Valenciennes, n'est-ce pas, cette garniture ?»«
Maman a été indisposée ce matin. J'ai bien craint de ne pas pouvoir venir ainsi que je vous l'ai promis. »«
Avez-vous vu la poupée de Thérèse ?»« Elle a un trousseau magnifique. »
Est-ce à vous, cette ombrelle? Elle est charmante.
Lily devint très rouge. Elle faisait des grâces avec l'ombrelle de sa mère, voyant qu'elle écrasait son amie qui n'avait pas d'ombrelle. La question de celle-ci l'embarrassa. Elle comprit qu'elle était vaincue si elle disait la vérité.
Oui,
répondit-elle gracieusement.
C'est papa qui m'en a fait cadeau.
C'était le comble. Elle savait mentir comme elle savait être belle. Elle pouvait grandir, elle n'y aurait rien de ce qui fait une jolie femme. Avec de telles éducations, comment voulez-vous que les pauvres maris dorment tranquilles? À ce moment, un petit garçon de 8 ans passa, traînant une charrette chargée de cailloux. Il poussa des « huuuuh » terribles. Il faisait le charretier, il jouait de tout son cœur. En passant, il manqua heurter Lily.
« Que c'est brutal, un homme » dit-elle avec dédain. « Voyez donc comme cet enfant est débraillé !»
Ces demoiselles eurent un rire passablement méprisant. L'enfant, en effet, devait leur paraître bien petit garçon de faire ainsi le cheval. Dans 20 ans d'ici, si une d'elles l'épouse, elle le traitera toujours avec la supériorité d'une femme qui a su jouer de l'ombrelle à 7 ans, lorsqu'à cet âge-là, il ne savait que déchirer ses culottes. Lily s'était remise à marcher après avoir rétabli soigneusement les plis de sa jupe.
« Regardez donc, » reprit-elle, « cette grande bête de fille en robe blanche qui s'ennuie toute seule là-bas. L'autre jour, elle m'a fait demander si je voulais bien qu'elle me fût présentée. Imaginez-vous, ma chère, qu'elle est fille d'un petit employé. Vous comprenez, je n'ai pas voulu, on ne doit pas se compromettre. »
Lily avait une moue de princesse outragée. Son amie était décidément battue. Elle n'avait pas d'ombrelle et personne encore ne sollicitait la faveur de lui être présentée. Elle pâlissait en femme qui assiste au triomphe d'une rivale. Elle avait passé le bras autour de la taille de Lily, cherchant à la chiffonner par derrière sans qu'elle s'en aperçût. Et elle lui souriait d'ailleurs d'un adorable sourire avec de petites dents blanches prêtes à mordre. Comme elle s'éloignait de leur mère, elles s'aperçurent ainsi que je les observais. Dès lors, elles se firent plus sucrées. Elles eurent des coquetteries de demoiselles qui veulent mériter et retenir l'attention. Un monsieur était là qui les regardait. Ah, fille d'Ève, le diable vous tente au berceau. Puis elles éclatèrent de rire. Un détail de ma toilette devait les surprendre, leur paraître très comique. Mon chapeau, sans doute, dont la forme n'est plus de mode. Elles se moquaient de moi à la lettre. Elles raillaient la main sur les lèvres, retenant les perles de leur rire, comme les dames font dans les salons. Je finis par avoir honte, par rougir, par ne plus savoir que faire de ma personne, et je m'enfuis, abandonnant la place à ces deux bambines qui avaient des gaietés, des regards étranges de femmes faites. Chapitre 3. Ah, Ninon, Ninon, emmène-moi ces demoiselles dans des fermes, habille-les de toiles grises et laisse-les se saouler dans la mare où barbotent les canards. Elles reviendront bêtes comme des oies, saines et vigoureuses comme de jeunes arbres. Quand nous les épouserons, nous leur apprendrons à nous aimer. Elles seront assez savantes.